France Culture. France Culture. Grand reportage, Camille Magnard.
On a plutôt l'impression que l'immigration domine tous les thèmes. Alors oui, c'est important, et il faut s'attaquer au sujet. Mais la politique économique est un enjeu au moins aussi important.
Évidemment, comme êtres humains, nous avons le devoir de protéger les autres des persécutions politiques. Mais on ne peut pas aider tous ceux qui sont frappés par le sort. Ici, en Allemagne, c'est juste impossible.
Vous avez sûrement vu que dans les médias, il y a eu ce débat gigantesque pour savoir si on pouvait ou pas adopter les textes avec les voix de l'AFD. Et ça, c'est une altération, une perversion de la démocratie.
C'est peu dire qu'on ne sait plus où donner de la tête ces derniers temps en matière d'actualités internationales. Et pourtant, c'est bien vers l'Allemagne que les regards vont se tourner dimanche, au soir d'élections législatives qui semblent concentrer les enjeux et les craintes politiques du moment. Et ce n'est pas seulement l'Europe qui scrutera la composition de ce nouveau Bundestag et la coalition de gouvernement qui en sortira. On voit bien comment les Américains, les Russes aussi, se sont investis à un point jamais encore égalé dans cette campagne, cible de toutes les influences, de toutes les ingérences étrangères. Mais ce sont bien des Allemandes, des Allemands eux-mêmes que nous allons entendre ce soir dans ce grand reportage pour tenter de comprendre quel est le contexte dans lequel ils et elles vont voter, dans quel état d'esprit, avec quel débat politique autour de cette campagne qui s'achève. On le comprendra, une campagne qui a largement échappé aux partis traditionnels. Allemagne, des élections à haut risque, c'est le grand reportage qui nous est proposé ce soir par Tara Schlegel. Et c'est donc avec vous que l'on débute, Tara Schlegel, bonsoir.
Bonsoir Camille, bonsoir à tous.
Tout ce que l'on va entendre, vous l'avez tourné ces derniers jours dans le sud-ouest de l'Allemagne, dans le Land de Baden-Württemberg.
Exactement, c'est une région touristique opulente qu'on peut visiter de Bodensee au Baden-Württemberg, la Forêt Noire aussi. Il y a des villes universitaires remarquables comme Leipzig ou Tübingen. Et puis, il y a la capitale, Stuttgart, qui est, après Munich, la deuxième ville la plus riche d'Allemagne. 600 000 habitants à Stuttgart environ. C'est surtout la ville de l'automobile. C'est là que se trouve le siège de Mercedes. Et dans le musée de la voiture, on peut voir justement des voitures sans cheval, donc les premiers modèles des voitures à moteur inventées en 1886 par messieurs Daimler et Benz. C'est cette industrie automobile qui a fait la richesse du Baden-Württemberg et c'est aussi celle qui est confrontée en ce moment à une crise économique importante. Et puis le Baden-Württemberg, c'est un land qui est dirigé par le Parti des Verts depuis 2011, des écologistes donc, mais qui doivent aussi composer avec une droite très conservatrice.
Voilà un concentré d'enjeux politiques et sociétaux dont on va parler avec vous, bien sûr. On y reviendra dans la deuxième partie de cette heure ensemble, hein, Tara, avec notre invité, donc Louis Sattelmayr. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes doctorant en sciences politiques, enseignant au Centre d'études européennes de Sciences Po. Et je vous propose donc tout d'abord d'écouter ce grand reportage qui débute avec vous, Tara, par la visite d'une petite ville située à une soixantaine de kilomètres à l'est de Stuttgart.
Me voici sur la place principale de Gmünd, juste devant la mairie, un ancien bâtiment très élégant, où le maire, Richard Arnold, m'attend normalement.
Hallo, Sie kommen Sie zum Oberbürgermeister.
Ja, genau, ich wollte gerade fragen.
Ja, hallo.
Voilà, moi, je suis Richard Arnold, je suis le maire de Schwäbisch Gmünd. Schwäbisch Gmünd, c'est une assez petite ville au sud d'Allemagne, 64 000 habitants. Et c'est une ville aussi assez internationale. Parce qu'avec la migration dans les 10 années passées, nous avons maintenant 140 différentes nations ici à Schwäbisch Gmünd. Alors, 140 nations, ça pose un défi sur la communauté de la ville. Et le grand problème, c'est dans la plupart des écoles en ville, la moitié des étudiants,
des élèves,
oui, viennent de l'étranger et surtout des migrants arabes. Alors leurs règles sont la majorité et les règles ici de la culture de l'Ouest, sont en minorité.
Vous-même, Richard Arnold, vous vous êtes vraiment engagé en 2015 en tant que maire de Schwäbisch Gmünd pour l'intégration des Syriens à l'époque, pendant la crise syrienne. On vous a beaucoup entendu.
Et je suis toujours engagé ici parce qu'il faut intégrer les gens qui viennent ici. Et c'est là où se trouve le problème. Parce qu'en Allemagne, on a 3,5 millions de réfugiés.
En ce moment.
En ce moment. Et ici, à Schwäbisch Gmünd, on a plus que 3 000 réfugiés. Alors, le nombre, dans le contexte historique, c'est la chiffre la plus grande qu'on a eue dans l'histoire d'Allemagne. Et pour cette raison, j'ai dit, il faut maintenant ralentir un peu. Parce que l'acceptance de notre société diminue rapidement. Et pourquoi l'acceptance diminue? C'est parce que la situation économique s'aggrave. Au passé, on a eu beaucoup d'argent et on pouvait toujours couvrir les problèmes avec l'argent. Maintenant, ça va plus. Parce que le taux de chômage augmente ici à Schwäbisch Gmünd. On se trouve maintenant sur 4,6. Ça semble que c'est pas beaucoup, mais pour nous, c'est beaucoup. Hein. Nous sommes pas habitués à un chiffre de 4,6. À l'époque, c'était 2,5% le maximum, mais maintenant, ça a doublé pour nous. Et ça augmente et augmente parce que l'entreprise Bosch, ici à Schwäbisch Gmünd, a déjà déclaré qu'ils vont licencier beaucoup de gens. Alors, bien sûr, s'il y a des problèmes avec les migrants, ça aggrave les problèmes. Pour cette raison, il faut parler beaucoup avec les gens et aussi montrer qu'on a compris et qu'on réagit.
Le 26 novembre, la direction de Bosch, premier équipementier automobile au monde, qui est aussi l'un des plus gros employeurs de Schwäbisch Gmünd, a annoncé la suppression de 1300 postes, la moitié des effectifs de l'usine. Les habitants sont atterrés. Simone Klaus dirige l'association des commerçants.
Je vais rentrer dans un magasin de vêtements pour hommes. Ah voilà, il y a madame.
Guten Tag.
Bonjour.
Bonjour.
Cet établissement de mode pour hommes a été fondé en 1939. Par le grand-père de Martin Rötel. Il nous reçoit avec sa collègue Simone.
On a appris les licenciements par la presse. C'était juste avant Noël. Alors, ça nous a fait deux fois plus mal. Avant les fêtes, c'est justement un moment où les commerçants espèrent faire de bonnes affaires. C'est un mois très important, décembre. Ça nous a fait un choc.
On a peur, évidemment, pour le centre-ville, pour les magasins. Et puis, il y a toutes ces jeunes familles qui ont construit des maisons ici, qui se sentent chez eux. Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir faire maintenant?
Diriez-vous que, dans le contexte de la campagne électorale, on parle suffisamment de l'économie?
Man hat gerade das Gefühl,
on a plutôt l'impression que l'immigration domine tous les thèmes. Alors oui, c'est important. Et il faut s'attaquer au sujet. De quelle façon? Ça, c'est aux experts d'en décider. Mais la politique économique est un enjeu au moins aussi important. Il y a plein d'entreprises qui sont en train de se demander si elles vont quitter l'Allemagne. Et elles ont besoin d'un signal qui leur dise « restez ici ». En tout cas, quel que soit le prochain gouvernement, il va devoir prendre des décisions très vite.
Mais vous préconisez quel genre de
mesures?
En fait, il faut se poser la question suivante. Qu'est-ce qui pèse sur les entreprises et sur l'État? Et sans aucun doute, les dépenses sociales pèsent sur l'État. Par exemple, les aides pour tous les immigrés qui ne peuvent pas travailler ou qui ne veulent pas travailler. Mais il y a aussi l'électricité, qui est très très chère pour les entreprises en Allemagne. Et puis on paye beaucoup d'impôts. Et la bureaucratie est trop lourde, ça freine les investissements. Mais c'est quand même difficile de trouver de bons salariés. Et c'est sûr que la main-d'œuvre immigrée a le droit d'être là, et même qu'il faut qu'elle soit là.
mais il faut des gens qui aient envie de travailler et qui veulent faire progresser notre pays. Ceux qui nous utilisent ou qui profitent des avantages du pays sans rien faire, ceux-là, les politiques veulent s'en débarrasser. Et nous, on est d'accord avec ça.
Nous voici dans le hall de la gare de Schwäbisch Gmünd, où les représentants du personnel de Bosch m'ont donné rendez-vous. Claudio Bellomo, tout en rondeur, travaille depuis 38 ans dans l'usine, qui va être délocalisée en Hongrie. Il a commencé ouvrier et il préside aujourd'hui l'équivalent du conseil de direction côté syndicat. Son collègue, plus nerveux, Andreas Reimer, défend les salaires dans l'entreprise. Claudio ne s'attendait pas au licenciement, comme personne d'ailleurs.
C'était une surprise totale pour nous, parce qu'on avait une sorte de contrat avec la direction de Bosch, un plan stratégique qui traçait l'avenir jusqu'en 2026. Et là, tout change du jour au lendemain. Mais on ne peut pas juste nous dire « vous coûtez deux fois plus cher que les Hongrois, alors on va tout délocaliser ». Il faut nous présenter des alternatives et nous écouter, parce qu'on a plein d'idées pour réduire les coûts et devenir plus compétitif. Et on veut faire ça ensemble avec la direction.
Quand il y a une crise économique comme celle-ci, qu'est-ce que vous entendez en fait de la bouche de vos collègues? Est-ce qu'ils disent que les étrangers volent votre travail?
En fait, pas du tout. On est une entreprise multiculturelle. Toutes les nations sont représentées ici. Moi, j'ai des racines italiennes. On a des collègues turcs, d'autres espagnols ou même français. En fait, il y a vraiment de tout.
C'est aussi notre particularité, cette diversité. Moi, je n'ai jamais ressenti dans l'entreprise que les gens soient contre l'Europe ou contre les étrangers, ou qu'ils soient devenus très à droite. Non, je ne vis pas ça. Bon, on entend dans les médias que c'est un vrai sujet, l'immigration, qu'il faut qu'on règle tout ça, qu'on pose des limites. Mais nous, ici, dans l'entreprise, ce n'est pas du tout comme ça. Jamais les collègues ne vous diront « les Hongrois, ils ont volé notre travail » ou « les Hongrois, ce sont les méchants ». Pas du tout. En fait, on sait bien qu'ils font le même travail que nous.
En fait, je suis un peu étonnée quand je vous entends. Je vous crois, bien sûr, hein, mais quand tout à l'heure j'ai parlé avec le maire, M. Arnold, il avait l'air de dire que les gens se sentaient quand même plus tellement en sécurité et qu'il y avait quand même un sentiment d'hostilité à l'égard des étrangers.
C'est sûr qu'avec ce qui se dit dans les médias, on peut influencer l'opinion très facilement. Mais ce sont des propos de comptoir, comme on dit. Il n'y a rien derrière. Parce que si on dit des trucs comme « les étrangers prennent notre travail », eh bien non, parce qu'en fait, si l'on regarde de quel poste il s'agit, par exemple dans le soin, sans les étrangers qui viennent travailler ici, le système s'effondrerait totalement. Les hôpitaux, les maisons de retraite, tout.
En fait, on est très nombreux à venir de l'étranger dans ce pays. Et tout dépend comment on raconte les faits. Si quelqu'un, par exemple, commet un vol dans un magasin, évidemment, on peut dire « c'était un Turc » ou bien un Russe ou un Italien ou que sais-je. Mais en fait, pour moi, les hommes sont tous égaux, ce sont des hommes, point. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors les demandeurs d'asile, ok, les élus doivent peut-être s'en occuper, sinon on risque d'avoir pas mal d'agitation dans le pays. Mais en même temps, moi je suis heureux d'avoir le droit d'habiter dans un pays où il y a une vraie tolérance. C'est un enrichissement pour nous.
Voilà, j'arrive dans la mairie de Tübingen, très ancienne mairie, mais toute moderne à l'intérieur. On a rendez-vous au deuxième étage avec monsieur le maire, Boris Palmer. Il est donc maire de cette ville de 92 000 habitants.
Boris Palmer est une vraie célébrité en Allemagne. On dit parfois qu'il est le maire le plus connu du pays. Réélu trois fois, démissionnaire du Parti des Verts, capable de faire avancer concrètement la protection de l'environnement, il est célèbre pour son franc-parler. On dit de lui que c'est un écolo très conservateur.
Nous avons voté à Tübingen un projet pour protéger le climat et parvenir à la neutralité carbone en 2030. Et il a été adopté à l'unanimité au conseil municipal. On a toujours réussi à être des pionniers, à tenter des choses que d'autres villes ont ensuite imitées. Par exemple, on est la première ville qui vient d'instaurer une taxe sur les emballages et les couverts jetables. McDonald's a porté plainte, mais la Cour constitutionnelle de Karlsruhe nous a donné raison il y a moins d'un mois. Et maintenant, il y a environ 200-300 villes qui veulent faire comme Tübingen. On a aussi été la première ville à forcer les promoteurs à installer des panneaux solaires, et maintenant, c'est devenu obligatoire sur tous les bâtiments neufs à l'échelle du Land du Baden-Württemberg. On a aussi réussi à proposer des bus gratuits le samedi depuis 7 ans, et beaucoup d'autres villes font comme nous. Mais ça va devenir difficile maintenant, parce qu'on manque d'argent. On est en pleine crise économique. Ça fait 5 ans que la croissance allemande est en panne. Et dans les communes, on a des déficits importants, même à Tübingen. À la mairie, on vient de voter à contre-cœur des mesures d'économie. Et ce que je trouve le plus douloureux, c'est d'avoir supprimé des lignes de bus pour la première fois depuis 40 ans, pour économiser 1 million d'euros.
Mais comment expliquez-vous le déficit dans vos finances locales ?
La première raison, c'est que, faute de croissance, on récupère moins de recettes fiscales. Ensuite, poussés par l'inflation, les syndicats commencent à se comporter comme en France. Ils sont en grève en permanence et le patronat cède trop rapidement parce qu'on manque de main-d'œuvre en Allemagne. Alors, ces trois dernières années, le coût du travail a quasiment augmenté de 20%. Et puis, la troisième raison, c'est que les dépenses d'hébergement des immigrés, les aides aux personnels handicapés, aux jeunes, toutes ces dépenses sociales explosent parce que le gouvernement et les Länder votent toujours plus de textes et qu'il y a de plus en plus de bénéficiaires. En plus, ce n'est vraiment pas comme si tous les étrangers travaillaient. Mais le plus compliqué, c'est juste leur nombre. On n'a pas assez de médecins, pas assez de psychologues, pas assez de travailleurs sociaux, ni de places dans les écoles. Par exemple, à Tübingen, il manque environ 300 places en crèche. Donc ça pose un problème aux parents qui ne peuvent pas travailler. Et dans le même temps, j'ai environ 300 petits réfugiés scolarisés. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas les accueillir, mais l'Allemagne a récupéré 10 fois plus de réfugiés ukrainiens que la France. Si tous ces enfants étaient dans les écoles maternelles françaises, moi je n'aurais pas de problème. Mais ce n'est pas le cas.
Ici, pendant la crise des migrants, vous avez eu beaucoup de réfugiés. Et vous, Boris Palmer, vous êtes assez célèbre pour avoir dit à un moment donné que vous trouviez qu'il y en avait trop, en quelque sorte. Je ne sais pas quel vocabulaire vous avez utilisé, mais je vous laisse me dire.
Oui, en 2015, j'ai dit « on ne va pas y arriver » quand le slogan d'Angela Merkel, c'était « Wir schaffen das », on va réussir. En fait, à l'époque, on recevait 10 000 réfugiés par jour, c'était intenable. Et puis, en 2017, j'ai écrit un livre qui s'intitule « On ne peut pas aider tout le monde ». Au fond, c'est toujours la même chose. Évidemment, comme êtres humains, nous avons le devoir de protéger les autres de la mort et des persécutions politiques. Mais on ne peut pas aider, ici, en Allemagne, tous ceux qui sont frappés par le sort. Ici, en Allemagne, c'est juste impossible. Numériquement, on est débordé. En ce moment, peu à peu, ce sujet fait surface. Mais malheureusement, on assiste aussi à un renforcement de l'AfD.
Dans le froid glacial, nous croisons Gerhard, en t-shirt et veste polaire à moitié ouverte. Il habite le quartier français de Tübingen, l'une des fiertés de cette ville écologique qui sert encore de modèle en matière d'urbanisme. Qu'est-ce que vous faites avec votre Karcher, là ?
Je nettoie, tout simplement.
Vous faites ça gratuitement ?
Oui, bénévolement. Ça tourne dans l'immeuble. Chacun, une fois par semaine, est responsable de la propreté autour de chez nous.
Il y a à peu près combien d'habitants ici ?
Il y a environ 2000 habitants dans le quartier français, et de tous les âges. Au début, il y a 25 ans, beaucoup de jeunes ont emménagé, et entre-temps, ils ont vieilli. Moi, j'avais 50 ans environ à l'époque quand je suis arrivé. Maintenant, j'en ai 73.
Ça vous plaît ce quartier ?
Oui, j'aime bien habiter ici. C'est pratique. À vélo, on est au centre-ville en 10 minutes.
Dann, was ist sonst so? Das ist die Konzeption.
Ce qu'il y a de spécial ici, c'est la conception du quartier. Les immeubles sont presque tous des coopératives de propriétaires. Du coup, chaque bâtiment est différent. On nous a dit aussi de ne rien raser. Autrefois, qu'il fallait garder la structure initiale des maisons pour éviter que des promoteurs immobiliers n'investissent ici. L'idée, en fait, c'était qu'on crée un quartier où on n'était pas obligé de prendre la voiture. Alors, au rez-de-chaussée, dans chaque immeuble, on a installé un commerce. Et souvent aussi une salle commune, pour se retrouver, faire la fête. La mairie voulait qu'on puisse tout trouver ici, et que ce ne soit pas juste une ville dortoir.
Est-ce que vous avez encore dans le quartier des traces des casernes des soldats français ?
Non, enfin, vous voyez ce gymnase ? Il était là du temps des nazis, et ensuite les Français l'ont utilisé. Et puis là-bas, tout au fond, il reste cette grande structure métallique qu'on appelle la Panzerhalle. C'est là que les chars paradés sur le chemin en béton. Vous pouvez aller voir, maintenant il y a des enfants qui jouent.
Pour savoir si l'Allemagne, championne des énergies renouvelables, qui a abandonné le nucléaire et réduit tout de même drastiquement ses émissions de gaz à effet de serre, a encore les moyens de son ambition écologique, ce dont semble douter le maire de Tübingen, nous voici chez la représentante de l'ONG BUND, forte de 650 000 militants à l'échelle du pays.
Je suis Sylvia Pilarski-Grosch, je dirige l'association Bund au niveau du Land de Baden-Württemberg. Alors tout d'abord, je ne pense pas qu'il y a, ni qu'il va y avoir, une grave crise économique. Ici, les gens ne sont pas au chômage. Or, ce serait un des effets visibles de la crise. C'est pourquoi nous pouvons encore très bien financer la protection de l'environnement.
Il y a une chose qui est particulière ici, dans le Baden-Württemberg, c'est un land qui est riche, c'est le règne de la voiture ici, et pourtant les gens ont élu des écologistes, le parti des Verts à la tête du land. Pouvez-vous en dire un peu plus ?
Oui, mais ce n'est pas contradictoire. Ici, les citoyens ont toujours eu une fibre sociale. Ils profitent aussi d'une région très belle, où on vient faire du tourisme, voir le Bodensee, la forêt noire. Donc, les gens sont attachés à leur environnement. Mais en même temps, ici, les Verts sont très conservateurs. On le voit très bien avec la figure du ministre-président Kretschmann. C'est un écologiste qui dirige le Land. Il y a 15 ans, quand il a été élu, il disait évidemment qu'il vaut mieux qu'il y ait de moins en moins de voitures. Eh bien, aujourd'hui, il se demande surtout comment faire la promotion de l'industrie automobile. Kretschmann, c'est vraiment la personnification du vert conservateur. Nous, on pense qu'il aurait fallu comprendre bien plus tôt que les voitures, telles qu'elles sont construites dans le Baden-Württemberg, n'ont aucun avenir, parce que ce sont des grosses voitures de luxe. Qu'on prenne les Mercedes, les Porsche, ils ont aussi des modèles électriques, mais ça n'a pas de sens. Elles consomment énormément d'électricité et elles prennent beaucoup de place sur la route. À Stuttgart, j'ai vu pour la première fois un parking plus large parce que les voitures sont de plus en plus grosses. Ça, c'est typique du Baden-Württemberg.
Et si on parle maintenant du climat, au sens climat politique, vous l'évaluez comment ? Parce que la droite et l'extrême droite viennent de voter ensemble au Parlement et vous en pensez quoi ?
Samedi dernier, notre association a co-organisé la grande manifestation contre l'AFD avec 44 000 participants. Et on l'a fait parce qu'on voit que le climat politique est en train de basculer. D'un côté, il y a la question des droits de l'homme et des réfugiés. Mais parallèlement, on voit bien que les citoyens ne tiennent plus le droit européen en grande estime. Or, la défense de l'environnement dépend beaucoup du droit européen. Et si les gens se disent « je n'en ai rien à faire de ce que décide l'Union européenne », ça va nous poser beaucoup de problèmes environnementaux. Avec ces grandes manifestations, mais nous n'y pouvons rien, c'est sûr qu'on divise un peu plus la société allemande. C'est comme s'il y avait d'un côté les bons et de l'autre les méchants. Quand on dit qu'on ne veut pas que se propage de la haine des étrangers, alors on nous répond « Oui, mais vous n'avez même pas un regard pour les victimes. » Et ce qui s'est passé à Aschaffenburg, si c'était ton propre enfant qui était victime, c'est vraiment comme si on ne pouvait plus se parler. Parce que tout est devenu trop émotionnel.
Moi, j'ai rendez-vous au Steigenberger Graf Zeppelin Hotel. Et donc, on a rendez-vous, je pense, avec Monsieur Frohnmeier. Ah voilà, la porte s'ouvre toute seule. Ouh, c'est luxueux. Donc, on est dans le hall d'un grand hôtel. Des tapis jaunes et bleus, très luxueux. Quelques tableaux. Ambiance vraiment cosy. Guten Tag. Bonjour.
C'est le lieu qu'ont choisi les représentants du parti d'extrême droite, l'AfD, pour notre rencontre à Stuttgart, capitale du Baden-Württemberg. Markus Frohnmeier est affable, il propose un cigare. À 33 ans, il espère être réélu député une troisième fois. Il a grandi dans le parti, dirigé son mouvement de la jeunesse et il a été le porte-parole de sa présidente. Évidemment, nous revenons sur le vote, le 17 janvier dernier au Parlement, d'une motion adoptée pour la première fois avec les voix des conservateurs de la CDU et de l'AfD.
Alors, j'étais présent et j'ai pris la parole. Et en fait, ce qui s'est passé est absolument normal. On s'est rendu compte, en Allemagne, qu'à cause de l'immigration massive illégale, il y a de plus en plus de problèmes. La sécurité des citoyens s'est détériorée. Vous savez qu'à Aschaffenburg, il s'est produit cet horrible crime. Un enfant de 2 ans a été tué avec un couteau. Par un réfugié, un Afghan. Il faut même dire qu'il a été exécuté. Et ce crime a suscité un véritable effroi, mais malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Et dans ce contexte, pour la première fois, les politiques, et pas seulement les représentants de l'AfD, mais aussi les conservateurs, de la CDU, CSU, les politiques se sont emparés de ce thème. Donc, nous avons adopté au Parlement, il y a 2 semaines, avec les conservateurs, une motion pour limiter l'afflux de migrants. Et vendredi, quand il a fallu voter concrètement une loi qui allait dans le même sens, tout d'un coup, il n'y a plus eu de majorité au Parlement. Vous avez sûrement vu que dans les médias, il y a eu ce débat gigantesque pour savoir si on pouvait ou pas adopter les textes avec les voix de l'AfD. Et ça, excusez-moi, mais c'est une altération, une perversion de la démocratie. Chaque député a une voix équivalente au Parlement. Il n'y a pas d'un côté les bonnes voix et de l'autre les mauvaises. Il n'y a pas des voix qui valent plus que d'autres. Quand on est élu à Berlin, on a tout simplement une voix. Or, on a vu cette semaine-là que plus personne n'a évoqué cet enfant de 2 ans et le crime horrible, tragique qui s'est produit. Non, le débat a dévié vers cette histoire de voix. Et M. Merz, le président de la CDU-CSU, s'est quasiment excusé d'avoir adopté ce texte très juste et très important, grâce aux voix de l'AfD. Et ça, c'est une honte.
Quel est le lien que vous faites entre l'immigration et le crime qui s'est produit à Aschaffenburg ?
Il y a aussi, en Allemagne, les statistiques de la criminalité qui prennent en compte la nationalité des gens. Et ce que l'on voit, c'est que 37% de tous les faits violents sont commis par des personnes qui n'ont pas la nationalité allemande. Et là, il faut quand même se dire que sur 80 millions d'habitants, 10 millions de personnes n'ont pas la nationalité allemande. Et ce sont ces ces 10 millions-là qui commettent 37% des crimes. Donc, scientifiquement, on peut affirmer, dire qu'ils commettent une part significative des crimes et délits. On pourrait sûrement évoquer ici des raisons culturelles ou religieuses, mais bon, ce n'est pas mon devoir d'excuser des comportements. Ma responsabilité, c'est de faire en sorte qu'Aschaffenbourg ne se reproduise plus. Et quand je me rends compte qu'un groupe de personnes pose des problèmes, évidemment, pas chacun d'entre eux, mais statistiquement, alors je dois faire en sorte que ces gens-là ne puissent plus entrer en Allemagne. J'ajoute aussi, et ça c'est important, que nous faisons la distinction, nous disons, les réfugiés légaux sont tout à fait les bienvenus s'ils travaillent ici, s'ils paient leurs impôts, s'ils veulent apprendre la langue et faire partie de notre communauté solidaire. Mais ce que nous refusons, ce sont les gens qui viennent ici illégalement, qui deviennent délinquants, qui sont violents, ne travaillent pas. En fait, ça c'est une réaction, tout ce qu'il y a de plus normal, qu'on devrait retrouver dans n'importe quel pays au monde. Mais ici, depuis l'ouverture des frontières, voulu par Angela Merkel en 2015, on ne considère pas ça comme normal. Seulement, entre-temps, les délits et les crimes sont devenus si massifs qu'on dit « maintenant, c'est terminé ». Il faut faire en sorte que cet afflux de migrants illégaux s'arrête.
Donc j'ai rendez-vous dans ce quartier qui s'est appelé à un moment « Asildorf », ce qui veut dire... le village de l'asile. Par contre, je me demande vraiment comment on peut y accéder. Ça y est, j'ai trouvé un petit passage souterrain. Ouah, avec une fresque. Il fait extrêmement froid. So kalt!
Oh. Denis Biller nous accueille devant les trois petits HLM construits pour loger des réfugiés dans le nord de Stuttgart. Car en Allemagne, personne ne dort dans la rue.
Il y a 160 personnes.
Ah, il y a 160 personnes qui habitent ici.
Also man... hat die Idee, dass die Menschen nur 2 oder 3 Jahre bleiben, aber weil es so schwer ist, Wohnungen zu finden, sind hier einige Menschen auch schon 10 Jahre und länger.
Alors, il y a des gens qui habitent ici depuis plus de 10 ans, me dit Denis, même si normalement, eh ben, ils devraient rester là seulement 2-3 ans.
Errichtet 1992 für Flüchtlinge aus dem Jugoslawienkrieg und haben jetzt schon einige andere Kriegsflüchtlinge auch beherbergt.
Donc ça a été construit en 1992 pour les réfugiés qui venaient de la guerre de l'ex-Yougoslavie. Et depuis, il y a pas mal de réfugiés venant d'autres conflits qui se sont installés ici. Effectivement, de près, la maison, elle est vraiment en bien plus piètre état que de loin.
Die Häuser werden, also Sie haben gesehen, hier drüben ist eine Baustelle, da werden neue Modulbauten erstellt.
Et là, ils réparent plus rien, comme ils vont effectivement tout détruire prochainement. Oui, on voit, da sieht man das, das Wasser da rein. Oui, on voit les plaques qui sont toutes gondolées à cause de l'eau.
Und in diesem Haus jetzt sind die Büros.
Ansonsten il y a toujours 2 entrées et là, on va dans le bureau.
Militant depuis toujours, Denis Biller co-dirige cette grosse association.
Ja, mein Name ist Dennis Bieler, ich bin bei der Arbeitsgemeinschaft für die eine Welt. Wir sind ein
Je suis
Verein.
Denis Bieler. Je dirige une ONG qui s'appelle Un seul monde. Je suis aussi travailleur social. Nous nous chargeons d'héberger des réfugiés dans des logements ici à Stuttgart. Et on s'occupe aussi de les aider dans leur démarche pour trouver un travail. On aide des enfants à l'école. On suit aussi des mineurs non accompagnés qui ont besoin de protection. Je vais vous dire comment cela s'est passé, quand l'AfD et les partis du centre ont voté ensemble au Parlement. C'était le 27 janvier, jour de la libération du camp d'Auschwitz. Cette année, c'est le 80e anniversaire de la libération et des cérémonies étaient prévues au Parlement, avec un grand discours commémoratif. Et pendant ce même après-midi, alors qu'on se souvenait de la libération d'Auschwitz, le chef du Parti conservateur a travaillé avec les nazis d'aujourd'hui. Et ça, c'est une gifle. Une gifle pour tous ceux qui disent « cela ne doit jamais se reproduire ». Il y a même 2 survivants de l'Holocauste, 2 messieurs, qui ont décidé ce jour-là de rendre la croix du mérite que l'Allemagne leur avait décernée. Parce qu'ils ont trouvé que cette collaboration politique était inadmissible et qu'ils voulaient faire un geste significatif.
En France, on ne dit jamais parti nazi quand on évoque l'AFD, mais vous, vous utilisez ce vocabulaire. Pour vous, indéniablement, ce sont des nazis.
En fait, on a un organisme qui veille au respect de notre Constitution et qui observe ce genre de parti politique. Et il a constaté, indubitablement, que ce parti refuse de respecter notre loi fondamentale. Il ne respecte pas les droits de l'homme. Il lutte contre l'indépendance des juges. Ils veulent détruire notre système démocratique. Ça, on l'a démontré. D'ailleurs, le mouvement des jeunes de l'AFD, par exemple, vient de s'auto-dissoudre parce qu'il a des liens avérés avec des skinheads et avec des militants d'extrême droite violents, et aussi avec des gens qui manient les armes. En fait, ce n'est tout simplement pas un parti normal. Il nie l'Holocauste. Il faut savoir que le docteur Gauland, l'un des membres éminents de l'AFD, a dit qu'Adolf Hitler était juste une fiente, une petite crotte d'oiseau à l'échelle de l'histoire allemande.
Et il a dit ça quand ?
C'était il y a 2 ans environ. En gros, ça voulait dire que Hitler n'avait pas été si important. Et Madame Weidel, la présidente de l'AFD, qui a été invitée sur X par Elon Musk, qui souhaitait l'interviewer, elle prétend que Adolf Hitler était un communiste. Il propage donc une vision fausse de l'histoire. Et ils en profitent aussi pour intimider certaines communautés, pour créer des zones où elles ne sont pas bienvenues, où elles n'ont pas leur place. Pour moi, c'est donc un parti agressif et violent qui devrait être interdit.
Bonjour.
Bonjour Anya, allô.
Bonjour Tara, bienvenue au Flüchtlingsrat.
Flüchtlingsrat.
Tout à fait, Flüchtlingsrat Baden-Württemberg.
En français, ça veut dire ?
Conseil aux réfugiés du Land du Baden-Württemberg. Alors venez.
Anya Bartel a fait une thèse en France sur l'immigration. Elle aide maintenant concrètement les étrangers dans leur démarche juridique à Stuttgart. Pour elle, le climat hostile aux migrants n'a jamais été aussi fort, surtout après les attaques, en particulier à Aschaffenburg, quand cet enfant de 2 ans a été poignardé par un homme déséquilibré en situation irrégulière.
On instrumentalise un événement singulier. Enfin, c'est une catastrophe en premier lieu, c'est une catastrophe en fait pour toutes les personnes migrantisées, réfugiées, exilées, qui vivent en Allemagne et qui entendent ce discours-là et qui éprouvent en fait donc tous les jours encore plus le racisme structurel qui règne dans nos sociétés.
Vous diriez vraiment racisme structurel ici en Allemagne, alors que nous, on voit quand même votre pays comme ayant accueilli 1 million de réfugiés syriens, énormément d'Ukrainiens de la dernière guerre avec l'Ukraine, enfin entre l'Ukraine et la Russie. Donc, vous direz quand même racisme structurel?
Oui, enfin, je pense qu'il y a du racisme structurel dans toutes les sociétés. Hein. C'est lié à notre histoire en France comme en Allemagne, dans les sociétés post-coloniales qui trient les gens selon leur origine et qui attribuent des places spécifiques à des personnes selon leur origine. Du coup, je pense, oui, ça c'est un fait scientifique, hein, que nos sociétés sont marquées fortement par du racisme ou par d'autres mécaniques de pouvoir aussi, hein, que ça soit du sexisme, c'est pareil.
Alors justement, le droit des personnes réfugiées, est-ce que d'après vous, il est bien garanti en Allemagne ?
Bien sûr, d'un côté, on vit quand même encore dans une société où il y a des procédures d'asile, où on peut, par exemple, déposer un recours quand on a obtenu un refus. Malgré tout, en fait, le système d'accueil, c'est des parcours vraiment semés par beaucoup d'obstacles administratifs. Souvent, l'existence en Allemagne des personnes est menacée parce qu'ils n'ont toujours pas de droit au séjour stable, bien que ça fait des années qu'ils sont ici. Je sais pas, pendant les auditions devant les administrations compétentes, l'ambiance n'est pas telle qu'une personne va vraiment se sentir à l'aise pour bien expliquer pourquoi la personne a fui son pays. Donc il y a toujours eu des problèmes dans le système d'asile et d'accueil. Mais récemment, il y a encore eu un autre changement parce que Enfin, parce que c'est la première fois, donc dans l'histoire récente, qu'il y a un texte qui passe grâce donc aux voix du parti fasciste.
Mais ce texte ne va pas forcément s'appliquer.
Enfin, de toute manière, en Allemagne, il y a bientôt les élections pour recomposer le Parlement. Donc la CDU savait, en introduisant en fait son texte, que rien qu'au niveau de l'échelon temporel, ça sera plus possible en fait de transformer ce texte en texte de loi. Donc c'est un coup symbolique.
Et alors qu'est-ce qui s'est passé depuis mercredi dernier ?
Alors mercredi, c'était vraiment comme un choc. Pas seulement en fait qu'il y a un chef de parti qui se dit conservateur, mais démocrate, qui fait donc un pacte avec l'extrême droite, mais aussi en fait qu'il propose un texte qui voilà prévoyait la fermeture entière des frontières à toute personne réfugiée, le refoulement à la frontière donc de toute personne réfugiée et l'emprisonnement en fait de toute personne ayant, disons, on peut utiliser l'équivalent français, un OQTF, donc une obligation à quitter le territoire. Donc ça, c'est vraiment un moment très grave qui est contre la constitution allemande, qui est contre tout règlement européen, qui donc met en cause en fait les fondements de l'état de droit, parce que au fond, en fait, dans un état de droit, on attend aussi de la part de nos hommes et femmes politiques qui respectent en fait le droit et pas qui proposent à tout jeter par la fenêtre parce que tout d'un coup ça paraît opportun en fait politiquement.
Parce que fermer les frontières aux réfugiés, ça, c'est complètement anticonstitutionnel en Allemagne aussi.
Oui, oui, oui. C'est anticonstitutionnel, c'est contre les textes européens aussi. Ça met quand même en cause aussi le droit d'asile, en fait, qui, pour des très, très bonnes raisons, est entré dans la constitution allemande après la Deuxième Guerre mondiale.
Et comment a réagi la société civile et vous, par exemple, dans votre association ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis mercredi ?
Alors, depuis mercredi, en fait, il y a eu comme un sursaut à travers la société civile. Et du coup, il y a vraiment des très grandes mobilisations, en fait, dans toutes les villes en Allemagne. Ça, c'est vrai que c'est des signes aussi d'espoir. Par exemple, samedi dernier, il y a eu une très grande manifestation dans le centre-ville de Stuttgart avec plus que 44 000 manifestants. 44 000 manifestants, ça veut dire qu'une personne sur 12 à peu près, en fait, est allée manifester et est allée exprimer, en fait, publiquement le fait qu'on ne souhaite pas vivre dans un pays où une soi-disant partie démocrate pacte avec des fascistes. Yeah. Ich schreib den Scheiß in Kleinbuchstaben, damit es heißt, keine Caps. MC Smoke tut 2025, bester Live-Invest. Wie tief kann man fallen, fragst du, wenn ich Ticketpreise setz? Fick das Live-Geschäft, das sind dazu zwei meiner Cents. Schau auf TikTok, hab mir Money-Glitches eingesteckt. Und steck die zwei, drei Stacks in mein Live-Geschäft. Gib's den Arm, gib's der Mitte, nimm's den Reichen weg. Wenn ich denke, will ich denken wie Heidi Reichineck. Yes, ich argumentiere die ganze...
En Allemagne, des élections à haut risque. C'était un grand reportage signé Tara Schlegel. Et le principal de ces risques, on l'a entendu en conclusion, c'est bien que le parti chrétien-démocrate, la CDU de Friedrich Merz, qui est donné grand favori de cette élection, ne soit tenté de s'allier pour gouverner avec l'AFD, un parti qu'on a entendu qualifier dans le reportage tantôt de néo-nazi, fasciste, d'extrême droite ou tout au moins antidémocratique. Louis Sattelmayr, je rappelle que vous enseignez les sciences politiques au Centre d'études européennes de Sciences Po. Alors, on entend beaucoup dire sur les plateaux télé, radio consacrés à ces élections allemandes que l'AFD n'arrivera pas, a priori, au pouvoir dimanche soir. Est-ce qu'on en est aussi sûr et pourquoi ?
On peut en être assez sûr parce que le système allemand, le système politique allemand, il est fait pour pouvoir bloquer toutes sortes de partis d'extrême droite, pour bloquer que un tel parti arrive au pouvoir. Malgré tout ça, on parle quand même d'un parti qui aujourd'hui est à 20%, 12 ans après sa création. Donc l'Allemagne a rattrapé son écart par rapport aux autres pays européens qui avaient déjà un parti d'extrême droite aussi fort. Mais aujourd'hui, on peut encore être assez sûr que la CDU ne rentrera pas dans une coalition avec l'AFD, mais va plutôt favoriser de faire une coalition avec le SPD et les Verts, ou les Verts.
D'accord, donc les scores les plus importants à surveiller dimanche soir, ce seront ceux bien sûr de l'AFD, également des Verts, du SPD, pour voir un peu les équilibres des forces en présence.
Voilà, c'est surtout la question, qui sera le partenaire de coalition pour la CDU. Donc, est-ce que il suffit de travailler ensemble avec les Verts, ou bien est-ce qu'on va revoir une grande coalition avec le SPD? Après, d'autres scores à surveiller, ça sera si les libéraux, qui étaient l'ancien gouvernement, si eux, ils vont réussir à rentrer au Bundestag, ou bien le Bündnis Wagenknecht, le BSW, si eux, ils vont franchir le seuil des 5% nécessaires pour rentrer au Parlement.
Arrache les gars, la prochaine question.
Oui, là, on parle des plus petits partis. Hein. Le BSW, on ne connaît pas trop en France. C'est un parti très, très, très à gauche. Mais moi, je voulais vous interroger quand même encore sur l'AFD et sur le fait que vous nous dites que la CDU, donc les conservateurs, qui risquent de l'emporter quand même dimanche, ne feront de toute façon pas alliance avec l'AFD. Je reviens sur la question qu'a posée tout à l'heure Camille. Est-ce qu'on est vraiment certain que Merz ne fera pas alliance avec l'AFD? Parce qu'on a vu là dans le reportage, moi quand j'y étais, vraiment les gens étaient complètement traumatisés. Alors évidemment pas tous, hein, ceux qui sont pro-AFD, ils n'étaient pas traumatisés du tout, mais il y a quand même eu d'énormes manifestations à la suite de ce vote où, pour la première fois, on a vu des voix d'extrême droite et des voix conservatrices derrière un même texte. Donc, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'il n'y aura pas d'alliance?
Alors, je ne dirais jamais qu'on peut être 100% sûr de tout ça. Friedrich Merz n'a pas arrêté de répéter, surtout après le vote il y a 2 semaines, qu'il ne ferait pas de coalition avec l'AFD. Ça n'aurait peu de sens s'il peut aussi rentrer dans une coalition avec le SPD ou les Verts, parce qu'il ne perdrait pas en crédibilité, il se contredirait en faisant ça. Donc, pour lui, il y a peu de raisons, sauf si peut-être il n'y a pas de coalition possible dimanche prochain. Mais pour lui, il y a peu de raisons pour de rentrer dans un gouvernement avec l'AFD.
Mais est-ce que vous pensez que pour la CDU, ça a été aussi un choc de voir que l'AFD votait avec les conservateurs? Je veux dire, pour les conservateurs eux-mêmes, est-ce que ça a été un calcul politique? Comment est-ce qu'on peut interpréter ce qui s'est passé
En fait, on peut comparer ça à la situation en France. Le RN décide de voter avec le gouvernement, là où il veut mettre la pression au gouvernement. Et c'était tout à fait prévisible, il y a 2 semaines, que l'AFD allait voter ensemble avec les conservateurs. En plus, il avait annoncé avant, surtout parce que le projet de loi, ou en fait les propositions que ces deux textes contenaient, étaient tout à fait sur la ligne de l'AFD. Les propositions étaient plutôt loin de là où la CDU a encore été sous Angela Merkel. Ils ont de plus en plus bougé, ou le parti a bougé encore vers la droite. Mm. Et donc, ils se rapprochaient à l'extrême droite. Et donc, c'était tout à fait... on pourrait s'attendre à ça.
Mm. Alors, quoi qu'il en soit, des résultats de dimanche soir, on voit qu'il y a ce parti, l'AFD, qui est né il y a une dizaine d'années, pas beaucoup plus, qui s'est imposé comme un élément incontournable de la scène politique, qui rivalise en termes de résultats avec les partis traditionnels à gauche ou à droite. Qu'est-ce que ça dit de l'état de la démocratie allemande, qui n'est pas n'importe quelle démocratie de par son histoire en Europe, sur justement le fait qu'elle soit rattrapée par des phénomènes et des tendances politiques qui, on peut le dire, vu de France aussi, jusque-là, peut-être l'Allemagne était protégée un peu de ça, mais elle se retrouve dans les mêmes thématiques et les mêmes affres que les autres démocraties d'Europe de l'Ouest.
Oui, tout à fait. Comme vous venez de le dire, on voit en fait que les mêmes processus, les mêmes transformations structurelles du système partisan commencent à se mettre en place, les mêmes qu'on a vues dans les autres pays européens. Pendant très longtemps, on a posé la question en sciences politiques, pourquoi ça n'arrivait pas en Allemagne, pourquoi en fait il n'y avait pas de partis d'extrême droite fortes dans les années 2000, alors que le RN il commençait déjà à faire des très bons scores lors des présidentielles en 2002 par exemple. Et une des réponses à ça, souvent, c'est l'histoire de l'Allemagne. C'est en fait cette politique de commémoration, de se rappeler de son histoire. Et en fait, ce qu'on voit en fin de compte, c'est que l'AFD arrive quand même à obtenir 20% aujourd'hui. On a les mêmes, les tendances sont les mêmes. On a des partis établis historiques de centre-gauche, centre-droite, qui commencent à copier les idées d'extrême droite, qui commencent à proposer des textes au Parlement qui ressemblent tellement à ceux de l'extrême droite que l'extrême droite vote avec eux. Donc En fin de compte, l'Allemagne commence à ressembler aux autres démocraties de l'Europe de l'Est, l'Ouest, pardon.
Et puis tout est fait aussi de l'extérieur, on l'a vu, on a parlé des ingérences sur la campagne depuis des années pour que l'Allemagne justement soit aussi dans ces mêmes tendances politiques. Il y a une pression qui est mise, on parlait d'Elon Musk qui est maintenant quand même l'homme le plus puissant ou le deuxième plus puissant en tout cas aux États-Unis, qui fait une campagne incroyable pour l'AfD, de campagne de sape des partis traditionnels allemands. Ça donne un poids à cette élection allemande sur la scène internationale qui est justement bouleversée à beaucoup de points de vue. L'Allemagne est au cœur de tous ces enjeux, on a l'impression.
Elon Musk, depuis le début de la campagne, Elon Musk n'arrête pas de se mêler dans cette campagne. Il repartage des postes d'influenceurs d'extrême droite. Lui-même, il a fait un espace de conversation avec Alice Weidel, avec la leader du parti de l'AfD. Donc, il soutient ouvertement l'extrême droite. Il dit que l'AfD est le seul espoir pour l'Allemagne, pour l'avenir de l'Allemagne. Donc, oui, en fait, l'ingérence vient du côté des États-Unis. Par contre, les effets de cette intervention, de ces interventions d'Elon Musk, en fait, on va devoir les étudier après. Il me semble que les gens qui atteint sur Twitter ou sur X, c'est plutôt des gens qui ont peut-être déjà tendance à avoir des sympathies pour l'AfD ou qui votent peut-être déjà pour l'AfD. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas surestimer cet effet sur la campagne en tant que telle.
D'après vous, qui observez beaucoup ce parti donc, qu'on dit d'extrême droite, hein, l'AfD, est-ce qu'il a encore vraiment des liens, comme le disait à un moment un des intervenants dans le reportage, des liens avec des néo-nazis en tant que tels, des avec des groupuscules quasi-fascisants. Enfin, qu'est-ce qu'on sait de tout ça?
C'est une question extrêmement importante. Il faut la poser parce que si on compare l'AfD à d'autres partis d'extrême droite en Europe, c'est peut-être le parti le plus radical. Enfin, c'est un des partis les plus radicaux. C'est un parti qui a des liens avec des néo-nazis. C'est pas moi qui le dis, c'est les gouvernements et c'est les institutions juridiques de l'Allemagne qui disent ça. Il y a Björn Höcke qui est le chef du parti dans le land de Thuringen, ce qui est un des lands les plus conservateurs en Allemagne, qui a perdu un procès parce que on l'avait appelé nazi ouvertement. Il a fait un procès à cette personne-là, il a perdu, donc juridiquement on a le droit de l'appeler nazi. Et ils ont des liens surtout par rapport à l'implantation locale qu'ils ont dans les Landes. Ils ont des liens ouverts avec des néo-nazis. Et en plus de ça, on l'a entendu tout à l'heure dans le reportage, leur organisation de jeunesse, des jeunes avec l'AfD, c'est dissous parce qu'ils étaient surveillés par le Verfassungsschutz, si on en parlait, le service d'intelligence interne ou de
renseignement intérieur.
Oui, je ne savais pas trop comment traduire, mais oui, c'est ça, d'accord. Un peu comme une agence des services secrets intérieurs.
Exactement, exactement. Ils étaient surveillés par eux et donc, en fait, ils ont fini par se reconstituer avec un nouveau nom.
Et puis, c'est un parti aussi qui développe une rhétorique révisionniste sur la Seconde Guerre mondiale, sur le regard que le pays a construit après la Deuxième Guerre mondiale sur toute l'expérience nazie et qui joue aussi de ces questions mémorielles.
Voilà, ils ont commencé à politiser ces enjeux-là il y a 5 ans à peu près, mais par contre le backlash, donc l'opposition publique a été tellement forte qu'ils ont dû renoncer à cette stratégie-là. Et on commence à entendre petit à petit, au fur et à mesure, on commence à attendre en fait de plus en plus d'idées ou de stratégies de repolitiser ces enjeux, de les remettre en question. Je dirais que c'est de plus en plus possible, mais par contre, le discours, il n'en est pas encore. Enfin, on n'est pas encore tout à fait en Allemagne. Donc, il y a quand même encore cette idée que ce qui s'est passé dans l'histoire allemande au XXe siècle, c'est horrible. Et donc, en fait, c'est encore très compliqué pour eux de politiser cet enjeu, mais ils le tentent de plus en plus.
Et puis, ça s'appuie sur un terreau, on l'a entendu dans le reportage, de doutes, de craintes économiques, même dans ce Baden-Württemberg qui est considéré comme un land riche avec une industrie automobile très forte. Tout ça s'érode, tout ça s'effrite. La confiance en l'avenir des Allemands a l'air d'en prendre un coup. Et c'est ce qui est un ressort de sentiment de déclassement, vous diriez, dans ce vote AFD aussi?
Il y a sûrement ça. Il y a sûrement ça qui est dans ce vote pour l'AFD, surtout si on regarde surtout l'Allemagne de l'Est. Il y a un clivage entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Et ce déclassement, je pense qu'il est surtout présent du coup dans l'Est. Par contre, là, dans le reportage, on était dans un land qui était, comme vous le disiez, il est riche, c'est plutôt des gens plutôt aisés, classe moyenne, classe supérieure. Donc, c'est du coup, on ne peut pas tout à fait expliquer ce vote qu'à travers le prisme des classements économiques. Mais il y a aussi juste des ressentiments culturels. C'est du racisme structurel, on l'a entendu pas dans le reportage aussi.
Moi, je veux bien un petit mot de votre part, Louis Sattelmayr, sur le côté quand même, enfin sur l'échec de la précédente coalition, parce qu'il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas trop vu nous ici, c'est-à-dire que effectivement, Olaf Scholz n'est pas un homme extrêmement charismatique, le social-démocrate apparemment, mais avec ses alliés verts et libéraux, il n'est pas du tout arrivé à mener une vraie politique parce que ils n'ont pas eu le droit, quoi, institutionnellement, de dépenser de l'argent qu'ils avaient mis de côté pour le Covid et que normalement ils auraient dû investir en Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots en pas trop longtemps, mais voilà.
Il y a un article dans la Constitution qui interdit à tout gouvernement allemand de faire des nouvelles dettes. Et donc, après la crise de Covid en 2020, ils ont eu le droit exceptionnel de faire de s'endetter, d'emprunter de l'argent. Et ils n'avaient pas tout, l'ancien gouvernement n'avait pas utilisé tous les fonds. Donc, ils ont utilisé, le gouvernement d'Olaf Scholz a commencé à utiliser ces fonds pour la crise énergétique après la guerre en Ukraine. Et la Cour constitutionnelle allemande a dit, en fait, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc ça a créé un trou dans le budget allemand, il fallait rembourser cet argent et en fin de compte, vu qu'ils n'avaient pas le droit de faire encore des nouvelles dettes, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur le budget, ce qui a en fin de compte mis fin à cette
coalition. Mis fin à la coalition, mais est-ce que ça veut dire que le prochain gouvernement aura un peu plus d'argent que celui d'Olaf Scholz ou pas du tout?
Ils auront à peu près le même budget parce qu'ils ont réussi à quand même combler quelques trous ou à remplir ces trous et le Friedrich Merz lui-même était ouvert à réformer cet article dans la Constitution. Voilà, on peut faire ça, il faut une majorité de deux tiers au Bundestag et au Bundesrat, donc c'est quand même assez compliqué, mais les partis plus à gauche de la CDU sont totalement ouverts à ce genre de réforme.
Alors, on va boucler la boucle sur les enjeux de l'élection et sur cette élection de dimanche. On a le sentiment donc que l'AFD a polarisé l'élection, a imposé ses thèmes de campagne. Est-ce qu'il y a tout de même un contre-discours qui existe à gauche, peut-être à la gauche du SPD? On parle du parti Die Linke qui avait été un peu oublié ces dernières années.
Il existe totalement Die Linke. Donc, on a parlé tout à l'heure du parti de Sarah Wagenknecht. D'ailleurs, si je peux me permettre, je ne suis pas tout à fait d'accord qu'il est très à gauche. C'est très compliqué de placer ce parti.
Il est très pro-russe.
Sarah Wagenknecht était membre du parti Die Linke. Il y a une scission il y a un an et demi. Et aujourd'hui, Die Linke connaît une ascension ou remonte dans les sondages. Ils sont dans certains sondages à 8-9%. Et c'était un parti qui a il y a 6 mois, il y a encore 4%. Donc c'est une des histoires clés de ces élections.
Eh bien, ce sont autant d'enjeux qu'on a voulu développer ce soir avec ce grand reportage. Merci à vous, Tara Schlegel, de l'avoir tourné et de nous en avoir parlé aujourd'hui. Merci aussi, Louis Sattelmayr, d'avoir été notre invité du Centre d'études européennes de Sciences Po. Ce reportage était réalisé par Annie Bro, avec Noé Chaban à la mise en onde. Grand reportage à podcaster, bien sûr, sur le site et sur l'appli de Radio France.